Qu'est-ce que vous avez mangé ce matin, par exemple?
Deux tartines grillées avec du beurre et un café.
Moi, je mange pas le matin.
Encore rien du tout. En général, je mange à midi.
Petit déjeuner, s'il y a moyen de le sauter, je le saute. Mais alors, je mangerai deux fois plus à midi.
Et vous faites attention à vos habitudes alimentaires?
Ouais. Manger plus de fibres, de légumes. Boissons sucrées, non. Alcool, on fait attention. Et viande rouge, on en mange. Hein.
Bah, alcool, jamais. Sucré, jamais. Je bois que de l'eau. Légumes, oui. Viande rouge, 2-3 fois par semaine.
Personnellement, je bois pas d'alcool. Je me limite assez bien dans les boissons sucrées. Mais je suis pas l'exemple type.
Vous n'avez pas une consommation abusive de l'alcool?
Non, pas du tout. Mais on va pas dire qu'on en boit pas. Ce serait faux.
Des menus variés au micro de notre stagiaire Martin Schaffer, vous l'entendez. Bon appétit d'ailleurs si vous venez d'entamer votre petit déjeuner. Ce matin, on revient avec vous sur l'étude Sienzano dévoilée cette semaine et dans laquelle on constate que les Belges ne mangent pas assez sainement, trop d'alcool, trop de viande rouge ou de sucre, d'aliments transformés au menu. Seuls 7% des adultes mangent assez de légumes et 10% assez de fruits. Il faut que ça change, c'est une question de santé publique, de prévention. Mais comment faire? Comment rendre attractive l'alimentation saine? Comment expliquer notre addiction presque à ce qui n'est vraiment pas bon pour nous? Vous réagissez au 0471 200 500 sur le WhatsApp de l'émission. C'est Sophie Brems qui vous lit. Bonjour Sophie.
Bonjour à tous.
On va accueillir nos invités. Il y a Hélène Alexiou qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes diététicienne, professeure de diététique à la Haute École Da Vinci, experte scientifique pour le Conseil supérieur de la santé. Et à distance, on accueille également Alexandra Balik-Dian. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en psychologie, psychologue, thérapeute, parce que l'alimentation, ça a aussi une dimension psychologique, on ne va pas se mentir. Sophie, on commencerait avec une première salve de réaction peut-être.
Oui, parce que vous nous demandez depuis ce matin ce que l'on a mangé. Bah, eh bien, oui. Edwige nous écrit « Bonjour, nous au petit déjeuner c'est du salé. Ce matin c'était œufs brouillés, bagels et petits desserts, des fraises du jardin. Midi ce sera chaud et salé, un plat certainement réchauffé de la veille et le soir une bonne petite soupe de légumes ou légumineuses accompagnée de pain. Belle journée, nous dit-elle. Je vous propose d'écouter aussi la question de Jordania. Elle nous a justement contacté et elle s'interroge sur l'étude en elle-même de Sienzano. Écoutez.
Bonjour. Alors, l'étude recommande d'augmenter la consommation de produits laitiers et je ne comprends pas pourquoi, alors que la plupart des adultes ne digèrent pas le lactose et que de nombreux fromages sont trop riches en sel et en graisses saturées. Merci pour votre réponse.
Hélène Alexiou, une réaction peut-être à cela, oui. Manger plus de produits laitiers, bonne ou mauvaise idée?
Alors, il faut savoir que, bon, il y a déjà pas mal de désinformation hein, au sujet des produits laitiers, du lait en général. Alors, quand on parle de produits laitiers, on ne parle pas uniquement de lait, effectivement. Il y a une certaine proportion de la population qui ne digère pas le lactose. Et le lait n'est pas le seul véhicule dans cette famille. Donc, il y a les yaourts, il y a les fromages. Tous les fromages ne sont pas forcément riches en graisse et en saturé. Mais la famille des produits laitiers, en fait, ce qu'on a montré dans l'évaluation des recommandations alimentaires, c'est que la consommation de produits laitiers est, en général, est associé à un meilleur statut de santé, tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle on les recommande et c'est notamment la meilleure façon d'atteindre ses apports calciques et donc de maintenir son statut osseux.
Mmh. Alexandra Balik-Dian, l'alimentation est là, clairement une dimension psychologique, c'est pour ça aussi que vous êtes là. On dit parfois qu'on mange nos émotions, il y a aussi toute la question des troubles du comportement alimentaire. C'est indissociable en fait de parler santé mentale et nourriture?
Alors, c'est extrêmement lié. On parle parfois de notre intestin comme notre second cerveau. Et on a vu dans de nombreuses études des liens très très forts entre santé mentale et alimentation. Donc, penser à la qualité de son alimentation, c'est vraiment essentiel.
Laurence Dougan, vous êtes également avec nous, vous venez de nous rejoindre, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes experte en politique nutritionnelle et coordinatrice du Plan fédéral Alimentation Santé, au SPF Santé Publique. On a vu hein, dans cette étude de Sienzano, premier constat, on mange mal. C'est un poil mieux qu'en 2014-2015, mais ça évolue peu, alors qu'on sait ce qu'il faut faire. Pourquoi, selon vous, ça ne bouge pas?
Bonjour, excusez-moi pour mon retard. Donc, je dirais qu'on ne sait pas forcément. Je pense que c'est assez peut-être vous ou nous, mais la population en général n'est pas forcément au fait de ce qu'elle doit manger. On a un gros souci de littératie en alimentation et en santé en général, ce qui fait que bien souvent, on mange sans réfléchir, en fait, et sans nécessairement avoir conscience des risques que ça représente. Parce qu'on parle vraiment de risques pour la santé. Je pense que cette étude traduit justement l'état de la situation par rapport à 2014. Et donc, il y a des très, très légers changements, mais vraiment pas notables, à part peut-être pour la consommation d'eau. On a pas mal promu les gourdes, l'utilisation des gourdes, donc ça, c'est une bonne chose. Mais de manière générale, on consomme beaucoup trop d'alimentation ultra transformée. Et donc, dans le rapport du Conseil supérieur de la santé, on a vraiment une recommandation axée sur cette catégorie d'aliments qui est réputée pour avoir peut-être beaucoup de goût, qui est aussi associée à
addictif
des notions
aussi,
de
hein, ouais.
Addictif, c'est encore compliqué à prouver, mais en tous les cas associé à des zones de plaisir, on se fait du bien, c'est du confort food.
C'est pas addictif, c'est peut-être du revenez-y, quoi.
Voilà. Et du coup, ces calories, eh ben, elles sont réelles, par contre. Donc, bon, maintenant, sans avoir un discours d'extrémiste, je pense qu'il faut faire la part des choses entre essentiellement avoir une assiette qui apporte les nutriments dont on a besoin, les vitamines, les minéraux. Donc, et quand on dit céréales complètes, c'est vrai que c'est un peu un côté pas très sympa. C'est quoi des céréales complètes? C'est vrai que bouffer du riz complet ou des pâtes complètes, ça assèche un peu la gorge. Donc, il faut rendre ça sexy dans la vie de tous les jours, mais les céréales complètes, c'est aussi manger du pain complet, et le pain c'est très bon si c'est accompagné d'une garniture agréable. Donc il faut essayer de rendre sexy les recommandations alimentaires, et surtout avoir en tête des grands repères nutritionnels alimentaires dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est vrai qu'on doit mieux outiller la population, et à commencer par les enfants.
Mmh. Hélène, Alexiou, justement, les enfants, on entend souvent que les bonnes habitudes alimentaires, elles sont à prendre dès le début, dès l'enfance. Pourquoi? Ça va influencer toute notre vie, en fait?
Ah oui, complètement. Alors donc, en fait, le patrimoine culturel et culinaire familial, en fait, c'est un peu la Madeleine de Proust, donc ça influence nos habitudes. Et donc là, j'encourage vraiment les parents qui veulent donner une bonne éducation à leurs enfants, enfin alimentaire, c'est de continuer à cuisiner, à offrir des fruits, des légumes, etc. Vous savez, dans l'enfance, il y a toute une période entre 2 et 5 ans de néophobie alimentaire où l'enfant va un petit peu rejeter hein, sa petite assiette de légumes, il n'aime pas trop. En fait, c'est de continuer à présenter, et c'est en fait, je pense que l'apprentissage culinaire, le fait de vraiment cuisiner ces aliments de façon agréable, plaisante, fait qu'en fait, on va se les approprier, et donc effectivement, ça se joue énormément dans l'enfance, mais rien n'est perdu. Je veux dire, on peut changer ses habitudes alimentaires, mais ouvrir le palais de l'enfant et l'habituer à ces saveurs-là, c'est effectivement faire en sorte que ces saveurs seront plus appréciées à l'âge adulte, c'est certain.
Oui, c'est ça. Donc il y a aussi toutes ces dimensions de l'éducation finalement, oui, à l'alimentation qui est essentielle. Oui. Elle peut être dans les mains des parents, elle doit aussi peut-être être dans les mains des écoles.
Tout à fait. Des menus, etc. Donc je pense qu'il y a énormément de projets actuellement déjà pour végétaliser l'alimentation dans les menus à l'école, pour avoir un regard sur cette alimentation. Et là aussi, les écoles ont un rôle à jouer également dans l'offre alimentaire en général. Les collations saines, etc. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend dès le début, et je pense qu'on est tous un petit peu acteurs de ce changement.
D'ailleurs, Yvan nous écrit à ce sujet. Je pense que le souci, c'est qu'on nous propose aussi beaucoup trop de choses à manger et à n'importe quelle heure. Petit, les rayons dans les supermarchés étaient beaucoup plus limités. Aujourd'hui, dans les magasins, on voit des caddies remplis aussi, peut-être, dit-il, de chips, bonbons et des plats préparés. C'est vrai que même si on n'a pas le temps de préparer quelque chose, aujourd'hui, les seules possibilités, c'est souvent fast-food, pizza et friterie, mais il appuie aussi sur l'éducation en matière donc d'alimentation.
Alexandra Balikjian, sur cette question-là, hein, l'abondance de choix, la tentation permanente, comment on fait finalement quand on est comme ça soumis à des injonctions contradictoires en permanence?
Mais c'est exactement ça, on est soumis à plein d'injonctions. D'un côté, on a des images à penser où on nous propose une multitude de choses. Tous ces produits sont de plus en plus accessibles, non seulement dans les rayonnages de nos supermarchés, mais également sur des plateformes de livraison. Ce midi, peut-être, je vais rêver d'avoir un burger d'une célèbre enseigne. Eh bien, en 3 clics, je pourrais me faire livrer à la maison. Donc, c'est extrêmement tentant, et l'offre se fait de plus en plus large, de plus en plus accessible, et il y a cette réalité-là qui côtoie aussi une autre réalité où on a un ensemble de recommandations. Je pense que je rejoins un peu sur le fait qu'il y a une éducation à l'alimentation à avoir par rapport à nos enfants. Il faut leur expliquer comment on constitue une assiette qui est une assiette équilibrée, mais aussi une assiette qui a du sens dans notre quotidien, qui nous permet de mieux fonctionner. Il y a une éducation aussi à la reconnexion du corps, c'est-à-dire de ressentir. Hein, certains d'entre vous, j'entendais, ont mangé une petite tartine avec du beurre et un peu de confiture. Mais probablement que vers 10 heures, ils vont ressentir des sensations de faim parce qu'ils ont eu un pic glycémique. Par contre, si vous expérimentez, par exemple, un petit déjeuner salé, eh bien, vous pouvez voir ce que ça vous procure. On joue beaucoup avec des enfants en éducation alimentaire, de leur faire ressentir la différence. Tiens, t'as mangé un croissant ce matin, voilà comment tu te sens maintenant. Tu as mangé un petit déjeuner salé ce matin, voilà comment tu te sens maintenant. Et donc, les reconnecter à ces sensations, parce qu'on est fort déconnecté de nos sensations. Donc, il y a cet aspect d'éducation. Et puis, je vous rejoins un peu, il y a aussi toute cette connaissance qu'on a. Hein. On sait ce qu'on devrait avoir dans notre assiette. Mais comme vous le dites, c'est pas toujours très sexy. On sait qu'on devrait avoir des céréales complètes, on sait qu'on devrait avoir des protéines, on sait qu'on devrait avoir des légumes, etc. Mais ce n'est pas très, très sexy. Et l'alimentation, ça passe aussi beaucoup par des habitudes de consommation, des émotions positives, du plaisir et de la facilité.
Sophie, voilà, une réaction à ce sujet-là. Oui, à propos
De conjuguer tout ça.
Oui, à propos de protéines, il y a Ben qui nous contacte là à l'instant, qui dit « L'histoire des protéines provenant soit dit de la viande est une grosse bêtise », dit-il. Il n'y a pas besoin de viande pour avoir une alimentation équilibrée. C'est peut-être aussi intéressant d'avoir...
Mais, Hélène, mais les protéines ne viennent pas...
Alors, effectivement, on peut tout à fait, dans un régime... Donc là, vous évoquez carrément le régime végétarien, si j'ai bien compris. Il est tout à fait possible de se passer de protéines animales. On a tout ce qu'il faut dans le règne végétal, il suffit de bien complémenter. Hein. Donc, quand vous êtes végétarien, vous devez... avoir différentes sources de protéines pour pallier aux légères déficiences.
Les protéines sont nécessaires.
Elles sont nécessaires, mais c'est possible d'apporter la quantité et la qualité protéique suffisante par d'autres moyens où il n'y a pas de viande. Tout à fait. Ça, c'est très documenté.
Laurence Dougon, on entend ici que voilà, on peut être soumis à des injonctions, qu'il faut éduquer dès l'enfance, etc., etc. Ça fait beaucoup peser sur la responsabilité au niveau individuel, tout ça, hein, à chacun de faire les bons choix. Mais est-ce qu'il n'y a pas plus à faire aussi au niveau collectif? Je parle de travailler sur les réglementations, sur les incitant économique, est-ce que la volonté politique, elle est suffisante aujourd'hui sur ces questions ?
Effectivement, l'enquête alimentaire conclut par la nécessité d'améliorer nos environnements alimentaires, et donc ce que vous venez de lister effectivement est clé, notamment en matière de marketing alimentaire. Donc il y a des choses à entreprendre pour améliorer la situation, et effectivement ça dépend d'une volonté politique forte.
Oui, il y a Rita qui dit on nous culpabilise sur notre mauvaise alimentation, mais que fait-on pour réguler par exemple l'industrie agroalimentaire? Est-ce que les dirigeants politiques ont un rôle à jouer à ce niveau?
Tout à fait, oui, c'est essentiel. Maintenant, il ne faut pas non plus accabler que le secteur de l'agro-industrie. On est bien content d'aller dans un magasin et de pouvoir avoir à manger. Donc ça aussi, c'est une réalité de notre société. Donc il ne faut pas caricaturer dans un débat trop polarisé. Je pense qu'il faut trouver des moyens pour mieux cadrer le marché alimentaire, qui actuellement, malheureusement, promeut trop de produits dont on n'a pas besoin pour notre santé. Et donc là, il faut rééquilibrer les flux. Maintenant, que les agriculteurs, que les fabricants alimentaires produisent des aliments, on en a besoin, on mange 3 fois par jour. Donc il faut quand même être aussi réaliste. Tout à fait, la responsabilité individuelle, évidemment, il y a une part individuelle. Le choix de s'alimenter, c'est quelque chose, c'est profondément intime. Mais évidemment, on ne choisit pas ce qu'on mange forcément, parce qu'on est influencé par toute une série d'éléments, comme le marketing alimentaire, et donc qui joue beaucoup sur nos émotions.
On va écouter justement, à propos du marketing et de la publicité, la question de Simon.
Bonjour, j'ai l'impression que la publicité a un impact quand même assez fort sur la manière dont on se nourrit. Est-ce qu'il y a des études qui montrent ça et est-ce qu'il ne faudrait pas légiférer pour mieux encadrer cette publicité ?
Une réaction peut-être, Hélène Alexiou.
Oui, tout à fait. Alors, il y a des études qui le démontrent. Nous, on s'est particulièrement penché sur le problème chez l'enfant, mais c'est également présent chez l'adulte. Les études montrent clairement que le fait d'être exposé à des publicités pour de l'alimentation malsaine, de la malbouffe, influence le comportement. Ben, c'est pour ça que les industries investissent dans la publicité. Hein. C'est clairement démontré. Ça donne envie. Hein. Vous voyez une publicité pour un aliment. aliment malsain, c'est quelque part dans votre cerveau, et un peu plus tard, quand vous aurez envie d'une petite récompense, ça se joue sous le circuit de la récompense, vous y allez, quoi.
Alexandra Balikdjian, en plus, ces publicités, elles sont, on peut les voir sur les panneaux, en rue, etc. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec l'accès sans arrêt à notre téléphone, on est aussi extrêmement soumis en fait à ces tentations en permanence.
Tout à fait. Et donc, ces publicités, elles sont vraiment omniprésentes dans notre paysage. On est exposé sans cesse. Et même quand on pense ne pas être exposé, on est exposé de manière insidieuse. Puisqu'aujourd'hui, il suffit de faire un petit tour sur les réseaux sociaux pour voir s'afficher les assiettes de vos collègues, vos amis, vos copains. On photographie son alimentation, on partage son alimentation, on prescrit une alimentation. Et donc, c'est extrêmement influencé. Notre alimentation n'est plus liée vraiment exclusivement à nos besoins alimentaires, c'est plutôt une manière aussi d'exprimer qui on est, comment on fonctionne. Mmh. Et donc, c'est un moyen de développement identitaire aussi. Et donc, dans ce sens-là, c'est parfois très complexe. Alors, du côté de la clinique aussi, on voit de plus en plus de troubles alimentaires qui sont induits par ces messages. Parce que certaines personnes se retrouvent quand même fort démunies dans cette ambivalence. D'un côté, on nous donne des images à penser où on peut être la meilleure maman du monde en donnant un chocolat dans un petit avec une petite surprise au milieu, et d'un autre côté, il est prescrit de donner des fruits et des légumes à ses enfants. Et donc, vous imaginez bien qu'on se retrouve un peu coincé entre deux réalités. Qu'est-ce que je fais?
Oui, c'est ça. Et en plus, là, vous parlez du rôle de maman, mais il y a aussi, enfin, de parents en général, d'ailleurs, mais il y a aussi toutes ces questions de, par rapport à soi-même, prendre soin de soi, il faut être très mince, il y a aussi toutes ces influences-là, les injonctions de cet ordre-là. Du côté des réactions, peut-être, Sophie?
Alors, il y a Geneviève qui nous dit « S'alimenter est une joie qui fait du bien au corps et au cœur. » C'est vrai que préparer à la maison, ça prend du temps, mais par exemple, en écoutant une bonne émission, comme sur la première, bien évidemment, en le faisant à plusieurs, parce que c'est aussi un temps agréable de cuisiner. Voilà, Geneviève, c'est une sexagénaire vitaminée, signe-t-elle. Mais les pilles, il y a Françoise Donnet qui nous a contactés, et elle a cette réflexion sur le genre.
Mon plaisir, c'est de manger ce qui est bon pour moi et pour la planète. Et chouette, ça va justement de pair. En tout cas, je plains les hommes qui associent bidoche à masculinité.
Bon, alors ça, c'est un constat qui a aussi été fait dans cette étude de Sienzano. Visiblement, les femmes mangent mieux que les hommes. C'est un enseignement sur lequel on peut s'étonner. Qu'est-ce que vous avez à nous en dire, Hélène Alexiou?
Alors, c'est plus un aspect, je pense, sociologique, mais je pense, sans vouloir faire de clichés, que peut-être que les femmes qui sont peut-être plus le genre qui va plus préparer le repas vont être plus soucieuses de leur santé et de l'assiette qui va être offerte. Maintenant, ça, je pense que c'est plus une question qu'on peut poser peut-être à l'intervenant psychologue. Mais en général, c'est ce qu'on constate et c'est pas étonnant, en fait.
On vous la relaie, du coup, Alexandra Balikdjian.
Oui. Il y a aussi tout l'effet de l'apprentissage. On va plutôt servir de la viande aux garçons en disant « t'as besoin de force ». Enfin, c'est aussi dans ces stéréotypes et dans ces représentations-là. Et probablement que si on s'intéresse plutôt au genre féminin, mais c'est aussi dans ces injonctions sociétales d'être mince, d'être tonique, d'être et donc on contrôle son alimentation. On voit que même dans le développement à l'adolescence, le rapport à l'alimentation change très très fort chez les garçons et chez les filles. Donc y a en effet un côté genré à ce niveau-là.
Et pour aller dans ce sens-là, d'ailleurs, je vous propose d'écouter ces quelques réactions recueillies par notre stagiaire Martin Schaffer.
Ma femme fait plus attention que moi, oui, c'est sûr. Là, je confirme.
Oui, je pense qu'on a un regard plus pointu là-dessus. Enfin, moi, personnellement, j'ai élevé des enfants, donc j'ai fait attention pour elles. Et donc, fils, on apprend plein de choses comme ça et on essaye de les appliquer à vie.
Pour être bien entouré de femmes, effectivement, la plupart essayent, ou en tout cas essayent d'atteindre un idéal, même si dans les faits, c'est plus facile de céder à la tentation.
Laurence Dougan, vous travaillez au SPF Santé. Cet angle du genre, finalement, est-ce que ce serait intéressant à aborder, par exemple, sur les questions de la sensibilisation, de la prévention? Est-ce que là, il y a quelque chose, un terrain à explorer?
Bien sûr, mais En matière de promotion à l'alimentation saine, ce sont des compétences des régions et des communautés. Donc,
alors justement, est-ce que ça communique suffisamment tout ça aussi, hein, dans la grande machine belgique?
Oui, bah écoutez, on fait de notre mieux depuis presque 20, enfin plus de 20 ans en fait, pour essayer d'un peu accorder tous ces niveaux de pouvoir. Et dernièrement, le ministre Van den Broek a lancé un plan obésité avec les entités fédérées pour lutter contre l'obésité infantile. Et donc toutes les parties qui sont investies d'un rôle en matière de promotion à l'alimentation saine et de prévention primaire à des maladies ont été invitées à venir expliquer qu'est-ce qu'elles mettent en œuvre, par exemple l'ONE, qui screen en fait les enfants de 0 à 18 ans au niveau de leur statut pondéral. Effectivement, il faut suivre les enfants, mais il faut voir aussi comment on communique le statut pondéral à une famille. Parce qu'effectivement, leur dire, bah voilà, votre enfant, il est trop gros, qu'est-ce qu'on fait après? Donc, il faut voir qu'il y a une bonne prise en charge par la suite. Et tout ça, ça relève d'une volonté politique de mieux encadrer la prise en charge, surtout en amont, avant que l'obésité infantile survienne. Parce qu'évidemment, quand on a des enfants obèses, c'est beaucoup plus complexe pour prendre en charge médicalement et socialement parlant ces enfants-là. Parce qu'il faut rappeler que l'obésité infantile, c'est aussi associé à énormément de soucis psychosociaux. Donc, et ça a un coût bien supérieur. Donc notre but en tant qu'autorité, que ce soit dans le chef de M. Van den Broek et de toutes les entités fédérées, c'est d'éviter que la population soit en surpoids ou obèse. Évidemment, le surpoids et l'obésité, c'est un aspect des choses. On peut très bien ne pas être obèse et pas en surpoids et avoir une hygiène de vie, donc une alimentation désastreuse. Mm-hmm. C'est important de le rappeler.
Là, ce sont les questions de maladies chroniques qui arrivent sur la table.
Qui est donc le premier. Il y a deux facteurs de mortalité en Belgique, c'est les tumeurs, les cancers et les maladies cardiovasculaires. Et on sait qu'on peut jouer, c'est pour ça que c'est si important ces résultats. C'est pas juste pour dire, ben voilà, on a des recommandations, oh, ils vont encore nous embêter à nous dire ce qu'on doit manger. Non. C'est directement associé à la mortalité. Et notre but dans la vie, bon, à de rares exceptions près, c'est de vivre en bonne santé, d'être heureux, de pouvoir s'occuper de la génération qui vient et pas de mourir de façon non prédictible. Parce que ça aussi, c'est le risque. En s'alimentant mal, en mangeant trop de graisse saturée, en ayant un régime ultra sucré, parce que ça fait plaisir sur le moment, mais on doit entretenir notre maison. Et notre maison, c'est notre corps. Donc ça, c'est vraiment important de pouvoir restituer ça auprès de la population avec une éducation alimentaire qui commence dès l'enfance.
Oui, c'est ça. Vraiment ça paraît du coup moins aussi éventuellement culpabilisant ou moins difficile à suivre quand on connaît en fait tout ce qu'il y a derrière. Il vaut mieux être bien éduqué aussi à ce que ça pourrait amener si on n'a pas une
alimentation
saine.
Complètement. Donc il y a les aspects littératie alimentaire, donc connaissance alimentaire. Et surtout se les approprier, parce que c'est pas le tout de... Souvent, le problème avec le marketing alimentaire, surtout chez les enfants, c'est qu'ils ont une connaissance que c'est pas bon, mais ils vont pas l'activer au moment où ils vont voir la publicité. Donc, ils vont être dans l'émotionnel, et c'est ça que, malheureusement, certains industriels exploitent. Donc,
et c'est là que c'est intéressant de
les accompagner. Il faut activer les connaissances, et il faut aussi outiller les gens à comprendre la relation alimentation-santé. Comment notre alimentation impacte directement notre santé et des facteurs de risque pour notre vie.
Sophie Brems.
Oui, mais une question très concrète de Céline.
On parle beaucoup de petit déjeuner salé. Est-ce que manger un œuf tous les matins, par exemple, est recommandé ou pas? On a aussi une mauvaise presse par rapport aux œufs. Voilà, donc est-ce que manger effectivement des œufs brouillés, un œuf sur le plat tous les matins, est-ce que c'est recommandé ou pas?
Ça va être pour vous, hein, Hélène Alexio.
Alors justement, donc, il y a un point sur l'œuf dans les recommandations alimentaires. Alors, donc les recommandations disent qu'on peut manger jusqu'à un œuf par jour. Pourquoi pas plus? Parce que l'œuf est une source de cholestérol et que pour des personnes qui auraient un taux de cholestérol LDL, donc le mauvais élevé, eh bien manger beaucoup d'œufs égale beaucoup de cholestérol égale ça va impacter leur mauvais cholestérol. Mais jusqu'à un œuf par jour, on dit jusqu'à un œuf par jour, normalement ce n'est pas problématique. Si vous avez problème de cholestérol, peut-être faites un peu plus attention.
Oui, vous vouliez réagir.
Oui, je voulais juste dire, je n'aime pas le mot petit déjeuner salé, parce que salé dit charcuterie. Et justement, un autre aspect très important, c'est qu'on consomme de façon massive beaucoup trop de charcuterie en Belgique. On est à 300 grammes semaine.
Ok, donc petit déjeuner salé, qu'est-ce qu'on met?
Donc, petit déjeuner salé...
Parce que fromage n'est pas meilleur, parfois.
C'est plutôt un petit déjeuner riche en protéines, en fait. C'est ça, plutôt qu'en glucides. Bon, enfin, pas qu'en glucides, qu'en sucre rapide.
Parce que Nutella, mettons, ou pâte à tartiner chocolatée ou confiture, ça, c'est pas nécessairement une bonne chose. Malgré que si c'est accompagné de pain complet, on pourrait encore le tolérer. Il faut pas tomber dans les extrémismes. Alors, le fromage, ben, c'est aussi des graisses saturées, mais c'est pas mal au niveau protéique. Et surtout, il y a un peu moins de sel que les charcuteries. Le problème des charcuteries, je veux dire, si tous les jours on mange une tartine avec du jambon ou du lard, c'est pas nécessairement un bon régime alimentaire. Donc, il faut pas donner des fausses.
Je suis en train de penser à mes tartines qui m'attendent après la matinale avec du jambon.
On peut aussi exploiter des céréales complètes telles que l'avoine. Alors l'avoine, tout seul comme ça, c'est pas très sexy, mais dans un muesli, un granola, avec des fruits oléagineux, on recommande en fait de manger des fruits à coque. D'accord, quelques fruits, un yaourt, c'est une source de protéines. Bah voilà, là vous avez un petit déj également équilibré.
Alexandra Balikji, ce qu'on entend ici en fait, c'est qu'on doit aussi reconstruire des habitudes, hein, et ça, les habitudes, c'est vraiment essentiel dans une bonne alimentation, c'est arriver à rentrer dans des automatismes, que ça ne devienne plus compliqué en fait.
Voilà, il faut essayer de simplifier et de remettre cette notion de plaisir. Je pense qu'un changement drastique d'alimentation, on dit aujourd'hui j'arrête la malbouffe, j'arrête les produits préparés, j'arrête, et je me mets à la cuisine, c'est peut-être un peu radical. Mais on a montré dans des études de comportement, c'est que si on introduit des petits changements et qu'on les maintient dans le temps, eh bien ces petits changements peuvent vraiment avoir un impact important sur la santé, on
c'est
y pense.
La piste
au bout d'un
va
certain
suivre.
Moment, mais c'est changer une petite chose à la fois.
Une dernière réaction,
une réflexion,
pour clôturer le débat.
Juste une réflexion d'un auditeur. On a parlé du genre dans l'alimentation et que les femmes étaient plus soucieuses de leur nutrition. Il y a Alain Carrière qui nous dit que ce sont 4 femmes qui me parlent ce matin de nutrition.
Ben dites donc. Merci en tout cas à toutes les 4 d'avoir été dans le studio. Hélène Alexiou, Laurence Dougan et Alexandra Balikjian qui étaient avec nous à distance. Et puis vous, Sophie Brems, bien entendu. C'est un homme que l'on accueille, Arnaud Roussen.